avec le trouble qui est plein en fait d'inspiration pour ces pratiques là, comment habiter dans les ruines en fait, comment vivre avec ces héritages là.
Écrit ça depuis les années 80 quoi.
Ça fait longtemps qu'elle le fait, ouais. Il y a aussi Anat Singh qui a écrit un certain nombre de textes, dont bon, il y a le champignon de la fin du monde, mais aussi le petit texte qui s'appelle Prolifération. C'est des textes super inspirants. Et puis une dernière référence, celle d'un paysan ostréiculteur japonais qui s'appelle Atekayama Shigaetsu, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle La forêt amante de la mer, qui est aussi traduit chez Wild Project, et qui est un magnifique texte qui raconte comment il a compris comment fonctionnait son bassin versant lorsque toutes les huîtres de sa baie ont été décimées, détruites, et qu'il a dû remonter et comprendre que la forêt qui avait été détruite dans la montagne au-dessus, en fait, c'était comme elle n'était plus là, elle alimentait plus le fleuve et que du coup les huîtres étaient mortes parce qu'elles n'avaient plus les éléments qui leur permettaient la vie. Et du coup c'est un, voilà, c'est un livre magnifique qui fait comprendre d'un point de vue paysan de la mer là l'importance de se sentir et du fonctionnement du bassin versant.
Ben écoutez, on va vous remercier. Donc comme j'ai annoncé, on aura d'autres émissions sur l'eau, c'est la vie. Important, on ne doit pas laisser l'eau dans les mains des États du privé. Voilà.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Et merci.
Et on va se quitter avec HK et les Saltimbanques. C'est pas fini. Au revoir.
Soyons fous aujourd'hui pour notre salut à tous. Avoir 20 ans et toute sa rage. Ne pas vieillir, si vieillir, c'est devenir trop sage. Leur raison, dites-moi, où nous a-t-elle amenés? Nous ne sommes pas de ce bois dont on fait les condamner. Ne soyons plus marionnettes, ni poupées, ni petits soldats. Qu'ils mettent un contrat sur nos têtes, on repart au combat.
C'est pas fini.
Pas de ceux qui renoncent, qui se trahissent. On n'a que les victoires des combats que l'on mène. Au diable l'orgueil et la gloire. Que la route soit belle. Semons sans relâche. On récoltera demain. Nous nous tuerons à la tâche, mais ce ne sera pas en vain. Avoir 20 ans, précieux sésame. Ne pas vieillir, si vieillir, c'est perdre son âme.
C'est pas fini.
Sans détour, la vie ne vaut rien. Sans colombe et sans retour, elle n'est que peau de chagrin. Au présent, pas de doute, je ne suis qu'un marginal. Mais demain, je reprends la route. Aujourd'hui n'est qu'une escale. J'y croiserai mon ami, assis sur sa vieille selle. À cheval comme lui, j'irai chercher ma belle. Je remplirai mes bagages de passion, de lutte et d'amour. De Johannesburg à Carthage, demain sera notre jour.
C'est pas fini.
Et Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire, une émission animée par Jean-Pierre Lacanaille à la programmation musicale et à la régie. Et bien sûr, micro ouvert, Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Et donc c'est parti pour le Tour du Monde Libertaire, le journal sans Dieu, sans maître ni publicité de la Fédération Anarchiste, le ML pour les intimes, le numéro 1855 de novembre 2023, avec deux surprises pour le Monde Libertaire. La seconde, on en parle tout à l'heure, la première surprise, la voici. D'habitude, je vous présente le Monde Libertaire apparaître. Aujourd'hui, je vous présente un Monde Libertaire déjà paru. Les heureux et heureuses abonnés l'ont sûrement déjà reçu et il est là, dans ce studio, ce Monde Libertaire, en encre et en papier. D'abord, la une signée MG, 50 nuances de racisme, où l'on peut découvrir une chose assez rare, un espèce de néo-nazi en train de lire un livre, ce qui est en effet quelque chose d'assez surprenant. On ne voit ça que sur les unes du Monde Libertaire, bien entendu. Une qui annonce le dossier dont auquel on causera tout à l'heure. Voyons d'abord l'édito du comité de rédaction. Dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non raciste, il nous faut être anti-raciste, disait Angela Davis. Malheureusement, on dirait que ce numéro tombe à point, nous dit le comité de rédaction, au vu de l'actualité. Nettoyage ethnique des Arméniens dans les plateaux du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, avec le soutien turc, Turquie qui elle-même s'en prend aux compagnons du Rojava, et enfin, en Palestine, l'État d'Israël, je lis ce qui est écrit, profite d'une attaque du Hamas pour anéantir les Palestiniens. Tout cela avec le soutien de nos États occidentaux, évidemment. Le racisme et le colonialisme ont encore de beaux jours devant eux et les marchands de mort vont se régaler. Ayant eu assez peu de temps pour intégrer des actualités dans ce numéro, vous retrouverez surtout des analyses de ce qu'est le racisme, à qui profite le crime et des pistes aussi pour le combattre. En plus de taper sur nos fachos préférés et de continuer à rêver d'un monde où l'on serait tous adelphes, tous libres, tous égaux, l'heure de l'autocritique est aussi venue. On aime bien mettre sur la table les sujets qui fâchent. Alors ça cause islamophobie. Comment être antiraciste lorsqu'on bénéficie directement ou pas du racisme, ainsi que fémonationalisme. J'avais encore pas vu ce mot, mais voilà. Alors on en reparlera de ce fémonationalisme dans le Monde Libertaire. Et puis une analyse de la théorie intersectionnelle. Inédit, vous aurez aussi le plaisir de lire une petite fiction. Hors dossier, il y a un communiqué de nos relations extérieures, des nouvelles de l'Espagne, de la Palestine, des luttes antinucléaires, des réflexions sur ce que le monde attend de nous pour brider nos individualités. Bref, de quoi cogiter et faire le lien avec le dossier. Comme ce journal est aussi le vôtre, n'hésitez pas à nous envoyer vos textes pour le prochain numéro. Je vous donne l'adresse, attention, monde-libertaire@fédération-anarchiste.org. Et le dossier du prochain numéro, ce sera le dindon de la farce sur la consommation, la production, le tourisme hivernal. Bref, on aime la raclette, mais la raclette nous aime-t-elle? Nous dédions ce numéro à tous les opprimés qui font actuellement face aux pires crimes coloniaux et un bon gros bras d'honneur à Airbus et Dassault qui s'en mettent plein les poches. Et c'est signé le comité de rédaction du Monde Libertaire. Et puis il y a aussi l'incontournable strip de Faber, Monsieur l'Homme, toujours pertinent à découvrir dans ce monde libertaire. Si c'est possible, eh ben ça serait vachement bien de faire une petite pause musicale, mais je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est OK, toujours.
À votre bon cœur, monsieur, dame, demandez le programme.
C'est en forgeant qu'on devient chômeur, quand on est un cadre jetable. 55 ans sur le compteur, 55 ans, c'est pas rentable. Et comme il pue la sueur, et comme il sue la peur, on s'en passera.
Demandez, monsieur, dame,
demandez le programme. Monsieur, tout le monde n'est plus personne, monsieur, tout seul et tout foutu. Puis comme le soir, il zone piétonne, un jour, monsieur se pisse dessus. Ça se passe comme ça. Lui qui pensait être quelqu'un, mais quelque chose, ça lui va bien. C'est déjà ça, c'est déjà ça, bien sûr. Moi, j'ai envie de pleurer. Y'a rien à voir, ou alors je veux pas le savoir. La vie est belle, ainsi soit-elle.
À votre bon cœur, monsieur, dame,
demandez le programme. Gamine en sol, la prix cadeau, garantie vierge à 100%. L'enfer est un vilain défaut pour une salope de 14 ans. Mais faut qu'elle se dépense, elle est en pleine croissance. Ça lui passera. Qui pue la misère, elle crevait de faim. De toute façon, c'est mieux comme ça. Dans la survie, il faut choisir ou devenir une machine à jouir. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, bien sûr. Mais moi, je tombe de haut, de la lune, à genoux et toujours dans le panneau. Circuler, y'a rien à voir, ou alors je veux pas le savoir. La vie est belle, ainsi soit-elle.
Y'a qu'à demander.
D'un fils de pute, c'est toujours quand le plus fort gagne. Et quand l'art d'aimer, c'est de l'art brut. Y'a pas mort d'homme, juste de femme. Œil par œil, dent par dent. C'est vrai qu'il l'a dans le sang, elle y passera.
Allez, allez, monsieur, dame,
c'est tout un programme. Et c'est garanti sans trucage. La bonne a rien, sauf à tout faire. Vu ce qui lui reste de visage, elle risque plus d'être adultère. C'est déjà ça. Elle est en vie, c'est positif. Même si c'est pas définitif, ça lui passera. Ça passe toujours, bien sûr. Et comme rien ne se perd, des fois, je reprends vie avec un peu de dessert. Circuler, y'a rien à voir. Ou alors, je veux pas le savoir. La vie est belle, ainsi soit-elle. J'ai mal au cœur, monsieur, dame.
Demandez le programme.
Y'a des vivantes à peu près mortes. Faut à la terre qu'à mal tourner. Mauvaise note à ton contrôle d'identité. On est en République ou au salon du flic, ça je sais pas.
Y'a qu'à demander, monsieur, dame,
demander le programme. D'un mal est simple et d'un charter, y'a mon amour à l'intérieur. Quand Alger pleure en Algérie, quand je baise avec mon insomnie, quand j'ai plus que ça. Puis quand y'a les copains à bord, mais quand c'est les copains dehors, moi, ça passe pas, ça passera pas.
Demandez le programme, c'était Agnès Bille dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et oui, et sur Radio Libertaire, on continue ce Tour du Monde Libertaire, ce Monde Libertaire, ce journal qui est le vôtre, on vous le répète. Et justement, ce mois-ci, et c'est la deuxième surprise, le comité de rédaction vous présente le prototype de la nouvelle formule du Monde Libertaire qui en profitera pour passer en kiosque, et ce devrait être en janvier. Voilà, avec votre mensuel, vous trouverez donc ce prototype dans sa version définitive. Bien sûr, il fera 24 pages, parce que quand vous allez le trouver, vous allez dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est maigre ce journal !» Mais en fait, là, c'est un prototype de 8 pages. La version définitive fera 24 pages, avec un format plus grand, plus journal que magazine, et sera, tenez-vous bien, moins cher. Ah ! Il sera accompagné de hors-série thématiques. Alors, n'hésitez pas, nous dit le comité de rédaction du Monde Libertaire, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques positives ou négatives à, je redonne l'adresse, monde-libertaire@fédération-anarchiste.org. Voilà. Et puis, sur le terrain des luttes dans ce monde libertaire du mois de novembre, sur le terrain des luttes, retour sur les journées anti-autoritaires de Saint-Imier. Et c'est un article signé tout simplement « Fédération anarchiste ». Les rencontres internationales anti-autoritaires se sont déroulées à Saint-Imier du 19 au 23 juillet dernier. Ces rencontres ont rassemblé près de 6000 personnes venues de tous les coins d'Europe et bien au-delà. La Fédération anarchiste s'est fortement mobilisée dans l'organisation de ces journées par l'implication de nombreuses personnes fédérées dans l'organisation générale et par un important soutien financier. Divers incidents sont survenus au cours de ces journées. Ce texte reviendra uniquement sur ceux qui se sont déroulés autour de la table de presse tenue par le groupe Kropotkine pour la Fédération anarchiste et qui ont retenu l'attention et suscitent de nombreux commentaires. Il convient d'en faire le récit. La relation des faits qui suit a été établie à partir des témoignages des membres de la Fédération anarchiste présents et présentes sur le stand, membres de l'organisation des rencontres internationales anti-autoritaires. Et enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardon, signalons que d'autres textes concernant les événements survenus à Saint-Imier ont déjà été publiés sur le net. Certains sont remarquables par la mauvaise foi dont ils témoignent, inversant la culpabilité des agressions, livrant un argumentaire a posteriori sur les deux livres incriminés et justifiant des méthodes autoritaires, autodafé, censure et agression physique et verbale. Vendredi 21 juillet 2023, eh bien ce vendredi, en fin de matinée, une personne est venue dire à la table de presse du groupe Kropotkine, seul stand de la Fédération anarchiste présent au Salon du Livre, des rencontres internationales anti-autoritaires 2023, que le livre de René Berthier, « Un voile sur la cause des femmes », publié aux éditions du Monde Libertaire en 2009, la dérangeait et qu'elle exigeait son retrait. Le principal argument évoqué était que l'auteur était un homme blanc, cisgenre, et qu'il n'était pas légitime pour écrire sur un tel sujet. Son interlocuteur, un des compagnons de la Fédération anarchiste tenant la table de presse, a proposé de faire de la place et de mettre à côté de l'ouvrage de Berthier un autre livre sur le sujet que la personne mécontente considérait comme acceptable. Quand, d'un coup, la personne a pris les exemplaires du livre et est partie en courant. Un camarade l'a rattrapé et n'a pu récupérer qu'un seul exemplaire déchiré. À partir de ce moment, il n'y avait donc plus d'exemplaires de l'ouvrage de René Berthier sur la table de presse. En début d'après-midi, plusieurs personnes sont venues inspecter de façon systématique et policière la table de presse en s'arrêtant et en posant des questions sur un second livre, « L'impasse islamique » d'Hamid Zanaz, publié aux éditions Libertaires en 2009. Cela a débouché sur une deuxième attaque de quelques personnes, argumentant qu'il était inacceptable d'avoir sur la table de presse de la Fédération anarchiste un livre préfacé par Michel Onfray, personnage devenu complètement en phase avec les idées d'extrême droite. Bien que plusieurs membres de la Fédération anarchiste aient poursuivi le dialogue de sourds, en rappelant notamment que le préfacier en question était à l'époque de la parution de l'ouvrage, 2009, plutôt proche des idées libertaires. Il est vrai qu'une note de contexte aurait pu être apposée sur l'ouvrage pour les lecteurs non avertis, mais les représentants de la police de la conscience ne voulaient rien entendre. Un peu plus tard, alors que les discussions tendues sur le choix des livres continuaient, plusieurs personnes, dont certaines cagoulées, sont arrivées précipitamment, sans chercher le dialogue, ont renversé une partie de la table de presse, ont souillé quelques ouvrages en jetant du café dessus et en ont volé d'autres. Une vingtaine de membres de la Fédération anarchiste venus en renfort pour protéger la table de presse ont décidé de ramasser le plus calmement possible la centaine d'ouvrages qui jonchaient le sol. Il et elle ont été aidés par de nombreux et nombreuses sympathisants et sympathisantes, simples visiteurs ou militants et militantes d'autres stands du salon. Au cours de ce ramassage d'urgence, une des agresseuses qui trônait au milieu du tumulte a crié à l'agression sexuelle après qu'un compagnon de la FA l'a soi-disant touchée en se baissant pour récupérer les livres à terre. Cela a provoqué une série de slogans scandés haut et fort par une dizaine de personnes qui désignaient les membres de la Fédération anarchiste comme étant des masculinistes qui agressaient les femmes. Quand nous nous sommes adressés à l'organisation du Salon du Livre, espérant un véritable arbitrage et un désamorçage des tensions, il nous a été répondu que les ouvrages en question dérogeaient à la charte du Salon du Livre et que le mieux était de les retirer de la table de presse. Aucun membre de la Fédération anarchiste n'avait pu prendre connaissance de cette fameuse charte et l'organisation était incapable de la fournir. En fin de journée, un compagnon de notre organisation a retrouvé dans un pré ce qui restait des exemplaires volés et brûlés de l'impasse islamique. Je vous laisse découvrir la suite de ce papier édifiant signé, je vous le rappelle, Fédération anarchiste. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Pour détendre l'atmosphère, on va écouter un petit morceau encore maintenant. Merci.
T'inquiète pas, monsieur. Je te suis pas, monsieur. Je prends le même chemin que toi. C'est tout. Je voudrais du soleil, des crayons de couleur, une boîte à musique, comme quand j'étais petite, du papier à fleurs et des éléphants. Des boucles dorées comme quand j'étais petite. C'est Noël aujourd'hui, Père Noël, fous le camp. J'ai pas de collier, pas décolleté, pas talon haut pour mes soirées. Et pendant ce temps, il y en a qui crèvent de froid la nuit. T'inquiète pas, monsieur, je te suis pas, monsieur, je prends le même chemin que toi, c'est tout. Je voudrais des roulottes et des chevaux blancs, des morceaux de lune pour jouer à cache-cache, des patins à glace, un gros château fort. Un cousin germain, comme quand j'étais petite. C'est Noël aujourd'hui, Père Noël, fous le camp. Je vous revois, sourire, sourire, je vous entends. Madame Blabla, pardonnez-moi, je suis pas causeuse. Salut Madame Blabla. T'inquiète pas, monsieur, je te suis pas, monsieur, je prends le même chemin que toi, c'est tout. Je voudrais, je sais plus rien dans la tête, le temps en attente comme
t'inquiète pas, monsieur, Nathalie Solence. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Nathalie Solence, qui vient de sortir un album sur lequel figure cette chanson d'ailleurs, et que vous pouvez trouver à Publico. Oh là là, quelle chance vous avez, c'est formidable. Formidable. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, alors, dans les pages lutte contre le nucléaire et son monde, s'organiser et lutter. Selon le journal Les Échos du 19 septembre 2023, qui s'en réjouit et titre « Le retour en grâce du nucléaire ». Le baromètre annuel publié par l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, assure que les Français, 1 sur 2, sont de plus en plus favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires. La journaliste rappelle que ce sont les enjeux d'indépendance énergétique mis en lumière par la guerre en Ukraine qui ont renforcé l'opinion favorable des Français pour le nucléaire. Pourtant, sensible aux enjeux géopolitiques, l'auteur oublie de mentionner qu'au Niger, l'arrivée au pouvoir d'un quarteron de généraux peu favorable aux intérêts de l'ancienne puissance coloniale fragilise d'autant les approvisionnements français en uranium. L'uranium utilisé en France provient du Kazakhstan pour 20%, de l'Australie pour 19%, du Niger 18% ou de l'Ouzbékistan pour 16%. De quelle indépendance parle-t-on ? Se demande Nicolas qui signe cet article et qui est dans ce studio et avec qui on va discuter un petit peu de tout ça. Alors on comprend qu'il s'agit tout d'abord de faire passer les bons messages pour influencer la courbe des baromètres d'opinion, ces votes par statistiques interposées. Et alors, juste avant de commencer à parler avec Nicolas de cette histoire de nucléaire, un autre article dans ce monde libertaire, un article de Gwenolé Kerdivel du groupe La Sociale, nous informe sur les Small Modular Reactors, développés notamment par les Russes, qu'Emmanuel Macron entend développer, puisqu'il vient de poser 1 milliard d'euros sur la table pour que des SMR français voit le jour. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bruno.
Alors Serge nous a rejoint aussi dans ce studio. Bonjour Serge. Je ne sais pas si tu as un micro, mais tu vas en avoir un dans 3 secondes 15 dixièmes. Voilà, c'est fait. Et donc, pourquoi publier cet article maintenant? Parce que bon, ça, c'est il y a longtemps qu'on sait ça. Il y a que les ignorants qui pensent que l'indépendance énergétique. Bon, les ignorants sont nombreux, certes, mais l'indépendance énergétique du nucléaire est depuis toujours. Je crois qu'on sait que c'est une farce.
Je ne sais pas si on sait. Enfin, en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est que ce qui est nouveau, c'est depuis quelques années, c'est une volonté du pouvoir étatique de relancer le nucléaire, donc de recommencer à nouveau la construction de nouvelles centrales, puisqu'il n'y a pas eu de construction. Les dernières centrales, leur construction a été achevée, je crois, à la fin des années 80 ou 90. Donc voilà, depuis, pas de... mis à part le fabuleux EPR de Flamanville, que évidemment toute la technologie mondiale nous envie tellement. Il coûte pas cher et il fonctionne très bien. Mais on sent bien que le pouvoir veut relancer tout ça et qu'il est important de gagner les esprits à la cause de cette technologie qui va nous sauver du climat, qui va assurer notre indépendance énergétique. Donc on continuera à avoir de l'électricité pas chère et tout ça. Et donc on sent bien qu'il y a un besoin de campagne médiatique pour convaincre les esprits ou ceux qui ne s'informent peut-être pas suffisamment ou qui préfèrent ne pas être trop informés.
On a un petit peu. Oui, vas-y Serge.
Oui, juste un mot. Ça me rappelle, bon d'accord, c'est peut-être mon âge, mais la grande campagne qui a eu en 73-74, tout électrique, tout nucléaire pour lancer. Et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Et j'ai l'impression de rajeunir en voyant la mauvaise foi, les mensonges, les médias qui suivent derrière et tous les gens, les experts. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Voilà, c'est tout chou.
Oui, c'est vrai que j'ai aussi quelques souvenirs. souvenir de ce genre.
C'est peut-être un des aspects positifs de la radioactivité, ça fait rajeunir peut-être.
Ah, fumé, voilà, c'est ça. Voilà, donc finalement, le nucléaire, c'est une bonne chose, ça nous permet de rajeunir. Très bien. Et en tout cas, de mourir jeune, ça, il y a des chances. Bien. Alors, on a donc l'indépendance énergétique qui est une farce, le traitement des déchets qui en est une autre, un EPR qui n'en finit pas de se construire et des montagnes de pognon qui sont déversées. Alors, y a même chez les fanatiques, il y en a pas qui tirent la sonnette d'alarme, qui nous disent « enfin, arrêtez vos conneries ».
Visiblement non, c'est ce qui est un peu surprenant, parce que si on prend le cas de l'EPR de Flamanville, où on est, je ne sais plus, à 12 années de retard, un budget x 6 ou quelque chose comme ça, et quelque chose qui ne fonctionne toujours pas bien, ou en tout cas, on a quasiment la certitude qu'il ne pourra jamais fonctionner à pleine puissance, pour des raisons technologiques précises. Hein. On en parlait avec Yves Lenoir au micro de Trou Noir il y a très peu de temps, la semaine dernière. Tout ça ne va pas marcher. Et donc, c'est aussi un petit peu la région des mini-EPR.
Alors voilà, oui. Alors c'est la merveille des merveilles. Ça sort de quel chapeau? Chapeau russe?
Alors, il y a le chapeau russe, il y a le chapeau français quand même, qui est assez EPR sur les petits machins.
Les mini-EPR, alors.
Ouais. C'est-à-dire que, visiblement, la taille, les 1600 mégawatts promis par les vrais gros EPR ne pourront jamais fonctionner. Mm-hmm. Et donc on se dit, finalement, on va en faire des petits. Parce que c'était quand même pas mal notre idée, mais on va en faire des petits.
Mais alors, si on en fait des petits, il va falloir essaimer partout sur le territoire français pour,
oui, mais
pour que ce soit plus poétique.
Comme ils sont petits, ils seront moins graves.
Moins graves.
Non.
Oui, je voulais juste dire que c'est pas, même s'ils relancent ça en ce moment, il y a déjà eu des études qui ont été faites au départ, il y a 10-20 ans, ça n'a jamais très bien marché, ça coûte extrêmement cher. Là aussi, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau. Bon, enfin, juste pour te répondre un petit peu pourquoi maintenant, je pense que c'est tout simple. C'est parce que quand ils ont lancé le plan Messmer, ils ont lancé vraiment à presque, sur 10 ans, ils ont tout lancé. Donc maintenant, tout arrive à la fin. Bon, ils ont beau dire qu'ils vont les faire fonctionner 100 ans, c'est du pipeau. Et donc là, il faut absolument qu'ils prennent le relais. Et c'est pour ça que la période, là, ils font le max. Effectivement, même si tu me dis, c'est complètement absurde, et je pense que les gens qui s'y connaissent doivent se dire, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Mais il n'empêche que, bon, il y a une telle nuée de nucléocrates du côté du pouvoir qu'ils y vont à fond. Mmh.
Alors, on nous dit, mais oui, mais vous vous rendez pas compte, on a vachement besoin d'électricité. Parce qu'on a nos ordinateurs, on a nos téléphones portables, on a nos trottinettes, on a nos vélos, on a nos bagnoles, on a tout. Le rêve du tout électrique est enfin là. Alors, donc il faut bien produire de l'électricité. Et le problème de l'électricité, si j'ai bien compris, c'est que ça ne se stocke pas.
C'est dommage.
Et ça ne se stocke pas, mais le nucléaire encore moins que les autres.
Ah, alors expliquez-nous ça.
Alors, par exemple, une centrale thermique, c'est comme une chaudière à fioul qu'on peut avoir pour chauffer sa maison. Si on n'en a pas besoin, on peut la couper, on peut l'éteindre. Des centrales nucléaires, ça ne s'éteint pas comme ça d'un coup de bouton. C'est-à-dire que ça se lance à une inertie qui est très très forte, et l'électricité qui est produite, il faut la consommer. Et la consommer tout de suite. Alors, par exemple, on peut se souvenir que c'est...
On peut en vendre aux pays voisins.
Alors, parfois, on en vend aux pays voisins quand on en a trop, mais il faut se souvenir que, par exemple, la création des heures creuses et des heures pleines, ça a été une manière d'essayer de flécher la consommation plus vers la nuit, à un moment où, habituellement, personne ne consomme. Mais comme on a dit aux gens, ça va vous coûter moins cher la nuit, alors faites tourner ça...
Les machines à laver, etc. Voilà.
Ouais. Faites-les tourner la nuit, ça va vous coûter moins cher globalement. Mais c'était une manière d'orienter les gens, de les inciter à consommer au moment où il y avait de l'énergie qui était fabriquée et qui servait à rien.
Ouais. Donc finalement, le prochain dossier du monde libertaire tombe à pic, puisque ce sera la question de la consommation qui sera posée. Parce que finalement, au bout du compte, si on met à part le danger du nucléaire, la question c'est tout de même cette folie de consommation, ce besoin absolu de consommer, d'aller de consommer toujours plus, beaucoup. Et pour aller toujours plus vite, finalement, parce que à quoi ça sert une trottinette électrique si ce n'est à aller plus vite que quand on la pousse avec son pied.
Oui, puis pour consommer, ils ont bien fait les choses, mais ils sont pas d'électricité à l'époque, et donc on subit encore. On a des appartements, plein d'appartements passoires, donc effectivement, faut les chauffer à l'électricité, et on est le pays d'Europe qui consomme le plus pour le chauffage à cause de ça. Et ça, au lieu de mettre du fric pour un peu avoir...
Ah, ils sont en train de le faire, hein. ils nous disent partout que...
Alors là...
On met du fric, on entame des travaux, c'est une... Hein? Non? C'est faux.
Un petit peu, mais vu le temps que ça va prendre... Il y a des magouilles, par exemple, si tu t'équipes en chauffage électrique, il y a un certain nombre de degrés qui fait que, pour la vente, tu vois, tu seras... on va grimper d'eux, hein, si tu es en électrique, comme ça. Et l'organisme qui était chargé de mettre justement ces chiffres a protesté. Alors, c'est pas du tout des gauchistes, ils disent anarchistes, mais ils disent, non, nous prennent pourquoi, quoi. Il y aurait plein de magouilles à dénoncer, effectivement. Ouais. Et là, effectivement, consommez dans vos appartements, etc., de l'électricité. Allez, et puis bon, pour tous les trucs, tous les gadgets. Ah oui, il y a quand même ceux qui font du golf, les petites machines, il y en a des électriques.
Ça va être moi qui adore jouer au golf, je vais me payer ça.
Non, mais je blague pas. J'ai regardé justement avant de venir à l'émission, j'ai regardé justement c'est les trucs qui font de la pub, parce que bon, tout ça est forcément très écologique. Et effectivement, j'ai regardé tous les trucs qu'ils vendaient, c'est absolument incroyable.
C'est formidable. Mais alors, bon, trêve de plaisanterie, ça résiste quand même. Le mouvement anti-nucléaire, il est sur ses deux jambes.
Le mouvement nucléaire, justement devant un peu l'arrêt des chantiers et ainsi de suite, le mouvement nucléaire, à mesure qu'une lutte précise, qu'il y en avait de moins en moins de luttes précises, mis à part les luttes sur les chantiers d'enfouissement, le problème de l'enfouissement des déchets, qui eux perdurent depuis tout le temps, et les luttes sur Bure sont les plus actuelles. C'est vrai que le mouvement s'est un peu essoufflé en l'absence de chantiers et de luttes très précises. Alors là, justement, face à la remise en route d'un programme de construction, le mouvement anti-nucléaire tente de se remettre sur ses deux jambes. Il y a une coordination qui est née au début du mois de juin, qui rassemble une grande partie des organisations hostiles au nucléaire, lesquels s'étaient parfois un peu fâchés il y a pas mal d'années. Mmh. Et donc là, il y a l'esquisse d'un mouvement qui tente de remobiliser plus largement la population sur ces luttes diverses et importantes.
Ouais, parce qu'il serait important justement peut-être, si on ne peut pas s'opposer à des chantiers, si on ne peut pas s'opposer physiquement, etc., par des manifestations, il y a peut-être un travail à faire sur justement cette fameuse opinion publique.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une propagande éhontée, Jean Covinci et autres, enfin bref, toute la télé, etc. Il y a tout un travail d'information à faire, et je pense que la plupart des gens qui sont dans ce mouvement sont tout à fait conscients, parce qu'on fait avaler des choses aux gens absolument incroyables, quoi, absolument incroyables. Et effectivement, moi, il y a un truc que je veux quand même signaler, on y était avec Monique pour représenter la Fédération anarchiste à cette fameuse rencontre, et à ma grande surprise, il n'y avait pas que des vieux. Et je tiens à le dire, parce que ce qui restait des poches de résistance, c'était plutôt des personnes âgées, et il y avait de toutes les générations, et ça, je pense que c'est positif.
Et alors, les mouvements écologistes, comment ils se comportent par rapport au nucléaire? Parce que moi, je me souviens, lors d'une des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites, oui, je crois que c'est ça, d'avoir croisé des gens du Parti écologiste qui viennent changer de nom, là.
Ah oui, c'est encore. On n'est pas à jour, alors, je crois.
À l'époque, ils s'appelaient encore Europe Écologie Les Verts, mais j'ai appris qu'ils avaient changé de nom.
Bon, oui, c'est peut-être.
Je crois qu'ils s'appellent les écologistes, même. Quelque chose de ce genre.
Pour qu'on en soit sûr, du coup.
Voilà, qu'on sache à qui on a affaire. Bonjour monsieur, je suis écologiste, et vous, bonjour, moi, je suis anarchiste et je t'emmerde. Eh bien, voyez-vous... Oui, bon, ce parti-là, on connaît, on sait, c'est un peu Jean Covici finalement, hein, ce parti vert-là. Très écolo, allez les gars, consommez pas trop quand même, faites gaffe. Mais bon, de toute façon, pour nos ordis, on a besoin du nucléaire, quoi.
Bah oui, puis maintenant, regardez, la fumée, elle est verte, c'est formidable.
Alors, si la fumée est verte...
Viva le pape.
Par contre, des mouvements comme les soulèvements de la terre, etc., comment ils se positionnent
là-dessus? Alors, eux, ils font partie de cette coordination. Mm-hmm. Donc, sans les connaître de très près, je comprends qu'ils sont franchement.
Si tu veux, ils n'ont pas forcément des ambitions d'avoir des députés, des maires, etc. Mm-hmm. Je pense que ce n'est pas du tout. Les gens les connaissent, donc, contrairement à certains. De toute façon, moi qui ai connu un peu les débuts du nucléaire, l'intervention politicarde qui s'est faite autour de Malville et après a beaucoup fait pour la faiblesse actuelle du nucléaire.
J'ai
eu l'occasion d'en parler d'autres fois.
On en a souvent parlé.
Faut quand même pas oublier que autour de Malville, c'est les premières fois justement, enfin, on commençait à voir il y avait des élections municipales et on commençait à voir, là, je sais pas si ça s'appelait le Parti Vert ou quelque chose, mais il commençait à apparaître et on a vu à les apparaître aussi dans les comités Malville. Bon, j'arrête là le développement historique.
Ce qui est certain, c'est que, je dirais, jusqu'au tournant début des années 2000, toute personne qui était, disons, qui se définit comme écologiste ou soucieuse de l'environnement, enfin voilà, de quelque chose d'un peu large comme ça, était hostile au nucléaire. Il me semble que ça allait de soi. Et puis, effectivement, au tournant des années 2000 et plus récemment, il y a un certain nombre de gens qui se revendiquent de l'écologie, qui disent « Oui, mais quand même, peut-être que le nucléaire, temporairement... » Et alors, le grand truc qui est arrivé au milieu, c'est le climat. C'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire pourrait sauver le climat.
Et oui.
Oui, mais ça... Juste un complément d'information pour les auditeurs, je pense que vous le savez, faut quand même pas oublier que le moment anti-nucléaire le plus fort était en Allemagne. En Allemagne, c'est les Grünen. Et les Grünen, même avant de cette prétexte du climat, ils avaient viré de bord. Parce qu'ils commençaient à être dans des régions, etc. Et ils avaient viré de bord, je ne sais pas au nom de quoi, mais ils ne parlaient même pas du climat à l'époque. Et ça a précédé, parce que c'était un mouvement extrêmement fort. Vous avez dû connaître ça. Dans les manifs, il y avait souvent, quand c'était pas trop loin de la frontière, des compagnons allemands qui venaient nous soutenir. C'est un mouvement extrêmement fort. Et les Grünen s'en retrouvaient au gouvernement, des ministres, etc. Donc, dans ces cas-là, évidemment, le nucléaire... Finalement, c'est bien.
Et puis, l'Allemagne est dans une situation du coup complètement différente parce que si elle voit passer des trains de déchets, elle a renoncé au nucléaire. Donc c'est pas simple à gérer pour les écolos allemands.
Les Allemands ont renoncé, ont prévu l'arrêt de différentes centrales encore en activité suite difficultés d'approvisionnement en gaz en provenance de Russie et ailleurs, ils ont décidé de
reporter
un peu, mais il semble que les fermetures ne soient pas annulées. Donc en fait, ils renoncent bien au nucléaire, ce qui est quand même une bonne chose et un bon signe. Alors après, comment ils gèrent différentes contradictions, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a clairement la volonté de couper avec le nucléaire, ce qui est le cas d'ailleurs d'autres pays, hein, chez nous on a tendance à dire, mais si on arrête le nucléaire, c'est le retour à la bougie, mais il y a quand même des gens comme les Allemands qui ne sont pas tous idiots, les Belges, les Italiens ont déjà renoncé, qui ferment le nucléaire. Je constate que ces pays-là n'ont pas l'arme atomique. C'est peut-être moi qui fais un lien un peu rapide, mais je suis convaincu qu'il y a un lien.
Il y en a certainement.
Hein. Juste un mot, terminer, excuse-moi, pour bien situer, alors, Chermine, c'est très rapide, on dit le nucléaire va sauver la planète, il va faire plein de choses, bon, ok, allons-y. Sur l'ensemble de l'énergie qui est produite sur la planète, le nucléaire représente 2%. Alors c'est avec ces 2% qu'ils vont sauver la planète? Non, mais ils se foutent la gueule de qui?
Voilà, ben c'était une belle façon de conclure cet entretien. On passe un petit morceau de musique, on se retrouve juste après.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance. On accélère, on tourne, on rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? De matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire, pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord. Et du sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition, on va payer. Je vois des océans, couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature assume, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, rusé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, rusé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous?
État des lieux, c'était Bernard Lavillier. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc, dans ce Tour du Monde Libertaire, nous abordons le monde libertaire, non pas à paraître, mais déjà paru. Vous pouvez vous rendre à Publico, vous pouvez aller le chercher, vous allez le trouver, c'est merveilleux. Alors, donc, dans les pages de ce monde libertaire, les pages passeport, les pages internationales, un article sur la Palestine, Palestine, la guerre toujours, un article de Pierre Sommermeyer, et qui commence son article comme ceci. Samedi 7 octobre, le matin, je commence un article où je veux décrire aux lecteurs du Monde Libertaire la situation d'Israël, quelques heures avant le début de la 40e semaine de manifestation contre la prise en main du pays par l'extrême droite fascisante et messianique. Je laisse mon texte à moitié fini et je pars faire un tour sans consulter les dernières nouvelles. À mon retour, la guerre a commencé. Je peux jeter mon texte. Rassurez-vous, il en a écrit un autre. C'est dans Le Monde Libertaire de ce mois-ci. Espagne, Espagne, on ne naît pas femme, mais on en meurt. En Espagne, on a pu voir ces dernières années un certain nombre d'initiatives pour lutter plus efficacement contre les violences machistes et les féminicides. Et pourtant, malgré la force des organisations féministes et les dernières lois accordées par le gouvernement, la situation demeure préoccupante. Depuis le début de l'année, on compte 85 féminicides. Ramon du groupe Salvador Seguí signe cet article et il en signe un autre, notre ami Ramon, un papier intitulé « Combat mémoriel en Espagne ». Près d'un demi-siècle après la mort du dictateur Franco, tranquillement dans son lit, ses crimes et ceux de ses partisans pendant et après la guerre civile sont restés impunis sous tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la période dite de transition. Gouvernement de droite, rien de surprenant, comme de gauche, tous les partis d'opposition avaient accepté l'héritage politique franquiste en échange de leur légalisation. Mais depuis plusieurs années, nombre d'associations mémorielles remettent en question la loi d'amnistie, amnistie qui consiste surtout à faire le silence sur tous les crimes fascistes. Parmi leurs principales revendications, l'annulation des jugements prononcés contre celles et ceux qui s'étaient opposés au putsch des militaires factieux en 1936 et ont ensuite poursuivi leur combat contre le régime franquiste. La mise en œuvre des fouilles permettant de retrouver et dévoiler les innombrables fosses communes qui parsèment tout le territoire espagnol, fosses communes où furent jetés des milliers de corps, de celles et ceux qui s'opposèrent au coup d'État militaire. On aurait pu penser que sous les derniers gouvernements socialistes, ces revendications auraient pu être satisfaites. Ce n'est à l'évidence toujours pas le cas. Le premier point se heurte à la loi d'amnistie, toujours en vigueur. Quant au second, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement socialiste autoproclamé le plus progressiste ne met pas les moyens nécessaires aux recherches et identification des corps ensevelis. Où en est-on ? Bah finalement, ce sont certaines communes et surtout des associations mémorielles qui recueillent et débloquent les budgets permettant les fouilles, mettant à jour les fosses communes. Inutile de préciser que les budgets alloués sont assez limités et très variables suivant les régions et ceux qui les dirigent. Il y a les décisions de l'État central, mais aussi des communautés autonomes aux couleurs politiques différentes. Un exemple récent, la Cantabrie, s'est dotée aux dernières élections d'un parlement dominé par la droite, le Parti populaire, 15 sièges, appuyé par l'extrême droite, Vox, 4 sièges. Évidemment, ce parlement autonome s'accommode fort bien de la loi d'amnistie assurant l'impunité des crimes fascistes. Face à ce parlement et à la mollesse des socialistes du PSOE, se dresse l'association Mémoire et Démocratie de Cantabrie, qui remet en cause les différents points de la loi d'amnistie en dénonçant l'agressivité subie par les organisations victimes du franquisme et en présentant un catalogue de revendications et propositions. On y trouve pêle-mêle et dans le désordre la dénonciation des procès sommaires, emprisonnements illégaux, tortures, bombardements des populations civiles sans défense, camps de concentration en Espagne, travaux forcés, disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires, expropriation illégale de biens, déportation, violence sexuelle comme moyen de harcèlement et terreur, exil politique, etc. Dénonciation pour l'après-guerre de la répression systématique exercée contre les femmes, les vols de bébés, les assignations à résidence des femmes encore en vigueur jusqu'aux récentes décennies, années 1980. Dénonciation du manque quasi total de vérité, justice et réparation. Dénonciation de la légitimation de ceux qui tirèrent profit du travail esclavagiste et de la spoliation des biens des victimes de la répression. dénonciation du silence sur le rôle complice de l'Église catholique officielle avec les structures du système franquiste, dénonciation de la limitation de la mémoire à la période de la guerre en ignorant que tout ne s'arrêta pas à la mort de Franco, mais qu'on continua de constater des atteintes aux droits humains pendant la transition. Arrêtons là cet inventaire de mesures énoncées en Cantabrie, mais aussi par d'autres associations dans d'autres régions d'Espagne. Mesures qui n'ont pas été retenues sous la mandature du gouvernement socialiste. Crainte de déplaire à une partie de l'électorat, sans doute. Et qui ne risque pas de l'être sous un gouvernement de droite. Il ne faut pas réveiller un passé douloureux, vous pensez bien. Bref, le combat mémoriel n'est pas prêt de se terminer, que ce soit sous un gouvernement socialiste, comme le PSOE, le plus progressiste, sous un gouvernement de droite du Parti Populaire et ses habits neufs du franquisme, ou d'extrême droite, comme Vox se réclamant carrément du créateur de la Falange, parti fasciste de José Antonio Primo de Rivera, grand admirateur de Mussolini. Voilà. Et pour cette Espagne et ce combat mémoriel, on fait une pause musicale.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane, et pardonne si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers et sans patron tout refonctionne. On sourit dans les ateliers, sur la place de la mairie qu'on a changé en maternelle. Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à madame, c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vie possible. Dame et tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas, le ventanero, como ayer la Confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas, le ventanero, como ayer la Confederación.
René Binamé, juillet 1936. Et vous avez bien évidemment reconnu une reprise de la chanson de Serge Girolio, Pardon si vous avez mal à votre Espagne. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc, dans cette émission, Le Tour du Monde Libertaire, nous continuons notre promenade dans les pages de ce numéro 1855 de novembre 2023. Et dans les pages Histoire, nous trouvons un article de Franck Thiriot qui nous raconte l'IP de la naissance en 73 et sa fin en 1977. Ce mois de septembre 1973 est décidément bien chargé. Besançon se déclare ville morte le 29 du mois. Les rideaux de fer des magasins sont baissés, tandis que les drapeaux se dressent par milliers, brandis par une foule en liesse de plus de 100 000 manifestants enthousiastes venus soutenir les travailleuses de l'entreprise horlogère LIP, où les femmes sont majoritaires. L'immense manif s'étale sur plusieurs kilomètres. Nous avons débarqué d'autobus affrétés par l'ORA, l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste, une organisation anarchiste que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Impressionnant le cortège libertaire, le plus important parmi les défilés révolutionnaires. LIP, en 6 jours seulement, on est passé de la routine du salariat au slogan « C'est possible, on fabrique, on vend ». On se paie. Un journal de grève est bientôt créé, LIP Unité. La révolte qui souffle, vent de liberté, est belle et bien chaude. Ce qui distingue ce mouvement, ce ne sont pas ses revendications, mais les formes de lutte qu'il développe dans l'ébauche de nouveaux rapports sociaux. En prenant leur sort en main, les ouvrières posent la critique en acte du salariat et de la vie quotidienne, notamment les rapports homme-femme, car la remise en cause de la condition féminine est une critique fondamentale des rapports sociaux, pas uniquement du machisme. Le degré de l'aliénation des femmes, la moitié de l'humanité, est la mesure de l'aliénation ou de l'émancipation générale. En s'emparant feu au plancher des moyens de production, elle renverse l'ordre social existant, la vie collective et les rapports interpersonnels en général. Bref, la société du salariat, la vente d'un produit qu'on ne peut pas dire parasitaire dans le cas des montres, dont elles ont fixé la valeur, est une critique en pratique de l'économie politique. La dévaluation du prix des montres est aussi une dévaluation du pouvoir capitaliste. L'occupation de l'usine remet en cause le pouvoir social. Le terrain du capitalisme est alors transformé en terrain d'émancipation collective. L'ordre dominant est renversé, cul par-dessus tête. Il va rêver aux ours. Rêver aux ours, j'ai appris que c'était de l'argot et que ça voulait dire perdre la tête. On fait une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est parti.
L'amertume de tout n'est laissé pour compte pour les galères qu'ils surmontent. L'humanité se consume dans les hommes sortis des urnes. Entre l'huissier et l'enclume, du bonheur on a que l'écume. La loi de la carte à puce, le plaisir coté à la ruse. Pour oublier la réalité, on en veut toujours plus. Alors on prend la vie comme elle vient, en s'éloignant du droit chemin. On prépare nos lendemains, militants du quotidien.
Entre le béton et l'oubli royal. plein de raisons de tout plaquer, mais je te dis que c'est pas demain. Je vais abandonner, je donnerai tout jusqu'à la fin pour rien regretter. Mais le combat est quotidien, tous les jours faut s'accrocher. À force de mater l'horizon, on pourrait se faire une raison, mais on continue la lutte au fil des saisons. On porte tous nos idéaux à bout de bras et on chante la vie avec ses hauts et ses bas. Le vent l'emportera sur la langue de bois. Hasta la victoria.
De ses rêves, pour tous les ouvriers, les smicards, les intérimaires. Pour nous, y'a pas de trêve, oublie même de faire la grève. Enchaîne les journées de galère, payées au lance-pierre. La face coachée sur le bitume. Tous les trouillards ont retourné leurs costumes. Les valeurs humaines se consument. Dans le brouillard, des pots d'échappement qui fument.
On nous dit la révolution s'est dépassée. Les hommes vivent libres, égaux. Condamnés au bonheur forcé. Les discours d'avenir sonnent faux. On ne parle plus d'esclaves. Mais tous les smicards s'habillent. À la chaîne, tout ça n'est pas grave. Je me donne pas sous les ponts de la Seine. Travailler, travailler pour acheter un peu de liberté dans notre belle démocratie. Un vrai bouquet d'ironie.
Militant du quotidien, c'était L'Homme parle. Dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc dans cette émission, nous présentons le numéro de novembre du Monde Libertaire qui est déjà sorti, rendez-vous compte. Et oui, il vous attend à Publico si vous n'êtes pas abonné. Et puis dans un certain nombre d'endroits, je vous l'ai dit, alors je vous le dis de mémoire, c'est le kiosque Colonel Fabien en face de la fabrique de Merguez et le kiosque Lomière, si mes souvenirs sont bons. Et de toute façon, très bientôt, à partir du début de l'année, dans tous les kiosques. Ah ! Voilà, ça c'est pour le Monde Libertaire. Alors, dans ce numéro, on entend parler de Prachedis Gilberto Guerrero, né le 28 août 1882. Il participa au mouvement magoniste au Mexique et une planche BD de MLT et OLT nous compte son itinéraire. Et dans les pages réflexions, un article de Bichette, l'injonction à la perfection. Et qui commence son article comme une petite lettre. Coucou, ici Bichette, j'aime le fromage, la Monster, et à ce qu'il paraît, quand on mélange les deux, c'est un Welsh transféminin qui serait ce que je suis si j'étais un plat. Voilà. Il y a des fois où je ne comprends pas tout ce que je lis. Néanmoins, je ne viens pas ici pour insulter la gastronomie alsacienne. Ah, je suis rassuré. Plutôt pour vous parler de quelque chose de sérieux concernant toutes les minorités. L'injonction à la perfection. J'imagine que vous n'aurez aucun mal à imaginer ce que c'est, mais pour faire simple, c'est l'application du perfectionnisme sur une personne extérieure. C'est-à-dire, littéralement, demander à autrui la perfection. Eh bien, figurez-vous que plus on est dans une communauté discriminée, plus la perfection nous sera réclamée. Que cela vienne de l'extra-communautaire ou de l'intra-communautaire. Et ces injonctions viennent très clairement voiler notre pensée dès qu'il s'agit de minorités. Que ces minorités soient ethniques, de genre, d'orientation, de personnes handicapées, etc. Voilà un article à découvrir dans le Monde Libertaire de ce mois-ci. Alexandre Caspar du Fawet, ça c'est un nom. Fédération anarchiste Moselle-Luxembourg aborde, lui, les trois fabriques qui façonnent la pensée des masses. Alors, c'est un article à suivre dans le numéro suivant du Monde Libertaire, mais nous avons ici la partie 1 et 2. Façonner, nous dit Alexandre Caspar Dufaouette, façonner la pensée des masses est un long processus dans lequel l'oligarchie excelle. Pour mieux asseoir sa domination et conserver ainsi ses privilèges, elle inventa, instaura et orchestra la fabrique de l'ignorance, celle du consentement et celle de l'opinion. Et malheureusement, ces trois verbes ne sont pas à conjuguer qu'au passé, bien au contraire. Voyons dès à présent les fabriques de l'ignorance et du consentement avant d'aborder le mois prochain celle de l'opinion. Notons simplement que notre propos est ici essentiellement contemporain. Voilà, vous trouvez cet article également dans le Monde Libertaire du mois de novembre. Pour une éducation anarchiste, un article de C du groupe Graines d'Anar de Lyon. Enseignant, enseignante de l'éducation nationale, j'ai craqué au printemps, ou plutôt mon cerveau, mon cœur ont craqué, subissant ce que mon médecin a qualifié de burn-out. J'ai été en congé maladie pendant plusieurs mois. Les causes sont nombreuses, parfois diffuses, mais petit à petit, j'ai acquis une certitude. Je suis en partie tombé malade parce que je prônais et... Alors attention, parce que je prônais et ce que je faisais était en... Parce que ce que je prenais et ce que je faisais, excusez-moi, était en complète dissonance. J'étais en complète dissonance. Me sentant fièrement anarchiste, je ne faisais pourtant que préparer les jeunes à un monde que moi-même critiquais, voire détestais, reproduisant souvent certaines formes de répression sans parvenir tout à fait à leur fournir des outils ouvrant des voies vers d'autres possibles. Un article à découvrir dans le Monde Libertaire de ce mois de novembre 1855 qui est déjà sorti, qui vous attend à Publico ou dans votre boîte aux lettres si vous n'êtes pas encore allé jeter un coup d'œil.
Musique. Un trou dans la photo de classe. Un vilain trou de cigarette. Mégot. Méchamment écrasé par le tampon de la sous-préfète sur un visage terrorisé. Elle s'appelle peut-être Sherazen. Ou alors c'est Ibrahima. Sûrement pas Marie Ségolène. Encore moins le petit Nicolas. Il y a un trou dans la photo de classe. Il y en a qui aimeraient qu'on s'habitue. Il y a un trou dans la photo de classe. Il y a un trou. Il faudrait peut-être qu'on se soit tu. J'en vois qu'il imagine déjà en pseudo-primo délinquant, comme on nous en colle dans le journal. Un jeune, alarmé jusqu'aux dents. Sauf que celui-là, depuis tout petit, ses parents lui ont rabâché qu'il y a intérêt à se faire tout petit. Vivons peureux, vivons cachés. Il y a un trou dans la photo de classe.
Il y a un trou.
Et on veut tâcher de l'oublier. Il y a un trou dans la photo de classe. Ça se voit plus quand elle est pliée. Il était venu par la mer, la grande mer où on a papier. Il s'en retourne en vol, amer. Eh ben oui, Marine, c'est sans papier. Il y a un trou dans la photo de classe. Il y avait du monde à la maison l'autre soir en rentrant du collège. Deux jours et demi dans une prison et hop, ils reverront jamais la neige. Il y a un trou dans la photo de classe, on saura pas ce qu'il est devenu. Une ministre a dit dégueulasse,
dégueulasse.
Ça consolera les ingénus. Faut pas faire de comparaison, le pays s'est amélioré. On est passé des vieux wagons à des avions bien isolés. Dedans, il y a l'air climatisé. Dehors, on est un peu frileux. La France a l'air conditionnée, calée dans des coussins moelleux. Il y a un trou dans la photo de classe. Il avait pourtant pris la pause. Paraît qu'avec le temps, ça se tasse. va penser à autre chose. Cette photo, si vous l'achetez, vous n'en verrez plus que le trou, aussi criant que nos lâchetés, assez grand pour passer un clou. Ça m'étonnerait qu'il ne s'efface. C'est pas bien bon pour une jeunesse de devoir grandir la tête basse en tenant sa fierté en laisse. Y'a un trou dans la photo de classe, on va s'en trimballer la honte. Plus on avance dans cette impasse, et plus les vieux relents remontent. Y'a un trou dans la photo de classe, une cicatrice à notre histoire. On fait ce qu'on peut, mais même de guerre là, on tombera pas dans ce trou de mémoire.
La photo de classe, Hervé Akrisch. Vous écoutez toujours le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et dans ce numéro du Monde Libertaire 1855 du mois de novembre 2023, et dans les pages du prototype qui vous présente la nouvelle version, la nouvelle future version, future nouvelle version, etc., comme vous voulez, et dans tous les sens, un article sur la question de la notion d'identité intitulé « Contre l'étiquetage ». Très compliqué, nous dit cet article, que nous devons, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, je vous le dirai tout à l'heure parce que là je retrouve pas l'auteur de cet article, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il existe cet article contre l'étiquetage. Très compliqué cette notion d'identité, surtout en ces temps d'auto-dafé identitaire. On peut certes tout d'abord la croire simple et la diviser en deux grandes catégories. L'identité donnée ou imposée, en langage compliqué, on dit hétéronome, c'est-à-dire qui reçoit de l'extérieur les lois qui la gouvernent, et l'identité choisie, c'est-à-dire autonome, c'est-à-dire qui se donne ses propres lois. C'est un article à découvrir dans le Monde Libertaire.
C'est un certain Nestor Potkin.
Nestor Potkin, bravo.
Ça sent le pseudo. Hein.
Bien, mais écoute Nicolas, tu as gagné un t-shirt Radio Libertaire pour cette excellente réponse.
Taille S,
parfait. Donc, pour ouvrir, alors, on va ouvrir le dossier du mois avec ce papier intitulé 50 nuances, ce dossier intitulé 50 nuances de racisme. On ouvre ce dossier avec tout d'abord la planche que Moa nous ouvre et qui nous donne ces 50 nuances dessinées, ces 50 nuances de racisme. Et puis un premier article de ce dossier, un article qui ne manquera pas de susciter la polémique et que nous devons à Erwan de Paris, qui nous dit « Anarchisme et lutte contre l'islamophobie, trois arguments pour les hésitants et les hésitantes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, certains et certaines anarchistes sont hésitants ou hésitantes à rallier la lutte contre l'islamophobie. » Le principe de rejet inconditionnel de la religion semble faire obstacle à l'engagement dans un combat qui est pourtant bien avant tout un combat contre l'État et contre l'oppression, nous dit Erwan. Pour convaincre les hésitants et les hésitantes, je caractériserai ici l'islamophobie comme 1. Un racisme. 2. Un paternalisme d'État et 3. Un colonialisme. Je rappellerai à chaque fois ce qui, à mes yeux, constitue une évidence, à savoir qu'il ne devrait pas être si difficile pour les anarchistes de s'engager aux côtés de celles et ceux qui subissent cette triple oppression. Combattre le racisme, le sexisme et les attaques contre la biodiversité passe par une critique matérialiste, nous dit de son côté Maxime Motard. L'absence de critique matérialiste fait que le racisme n'est pas reconnu comme structurel et que la situation environnementale n'est pas perçue à sa juste mesure et dans toute sa diversité. Le traitement du racisme n'est pas si différent du discours produit en relation aux problèmes de la planète. les deux traitements convergent pour parler du racisme ou de la planète. Il y a une négation d'aborder le sujet depuis la situation particulière des groupes sociaux. Voilà pour ce papier. Et puis Monica Jornet nous offre son poème intitulé « Les mots du racisme et le racisme des mots ». Et voici venir la suite d'une nouvelle dont la première partie avait été publiée, nous dit-on, en janvier 2022 dans Le Monde Libertaire et intitulée « Colleuse d'affiches jeunesse ». Alors si vous avez gardé ce numéro de 2022, janvier 2022, eh bien écoutez, c'est formidable, voici la suite de ce papier. Sous la plume de Pastis, du groupe Orage Noir, un titre interpellant, l'instrumentalisation des luttes antipatriarcales au profit du racisme. Article où il est question de, je vous l'ai dit tout à l'heure, fémonationalisme. Le fémonationalisme repose sur l'idée intrinsèquement misogyne que les femmes seraient des petites choses fragiles à protéger, ainsi que la propriété du patriarche. Dans le même temps, les hommes immigrés seraient profondément violents et misogynes en opposition à nos contrées occidentales qui seraient soi-disant libérées de toute violence patriarcale où l'égalité des sexes et la liberté sexuelle seraient acquises. Voilà, c'est un papier donc signé Pastis du groupe Orage Noir. Dieu est nègre. Léo Ferré chantait « Dieu est nègre, noir, café au lait, peu importe, car Dieu n'existe pas ». Mais les maîtres tuent en son nom ou celui d'autres religions, mutilent, s'acharnent à supprimer ici, ailleurs, hier, aujourd'hui, partout, tout le temps, chaque minorité politique, ethnique, de sexe ou de genre, tous et toutes celles et ceux qui ne sont pas dans la normalité au sens de l'ordre, de leur ordre à eux. Un article de Jean-Jean de Garrigue. En prime, bien sûr, le texte de Ferré, Dieu est nègre. Alors, évidemment, je dois vous signaler, appuyer sur le fait que le terme nègre utilisé par Jean-Jean de Garrigue et Léo Ferré avant lui est à entendre au sens que lui conféraient les écrivains Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor et d'autres pour lui redonner un sens positif dans le cadre du mouvement littéraire de la négritude. Cela va sans dire, mais cela va très bien en le disant. Voilà, et puis c'est un article qui est suivi de l'incontournable pavé d'Anard de Sadia et Mazoc. Et puis alors une question toujours sur le problème de l'islamophobie. L'islamophobie est-elle un racisme ? Un racisme, se demande Cyril de Poitiers. L'islamophobie est-elle un racisme ? Il y a des débats nombreux, voire vifs, notamment dans le mouvement anticapitaliste sur ce thème d'islamophobie. Débattre n'est pas un problème, c'est la violence entre des positions opposées qu'il l'est. L'article tente de clarifier les termes du débat. Et puis nous avons le fait divers incontournable de Jean-Marc Reynaud, mais comme je suis en retard, je ne vous en parlerai pas et vous le découvrirez vous-même dans les colonnes du Monde Libertaire. Un autre papier, le piège de la blanchité ou le confort du moralisme. Une idée court dans les rangs de la gauche, cette idée insidieuse autant que contre-productive fait du racisme un affect irrationnel, fruit de la bêtise et de l'ignorance. Toute personne ainsi affectée se positionnerait par là, à droite ou à l'extrême droite. Dans cette perspective, la gauche, parce qu'elle condamne formellement le racisme et prône l'ouverture et la tolérance, serait par nature immunisée contre ce vilain penchant. Un article que nous devons à Lizzie et Archie. Pour refermer ce dossier 50 nuances de racisme, ouvrons le prototype de la nouvelle formule pour découvrir l'article d'Hélène Hernandez, une critique féministe des politiques antiracistes. Kimberly Williams Crenshaw a théorisé l'intersectionnalité en 1989 en tant que professeur de droit comme outil pour repérer et analyser les discriminations sexistes et racistes qui, imbriquées et invisibles, consolident et accroissent l'injustice sociale. Enfin, ces textes sont traduits en français et espérons qu'ils permettront de comprendre que l'intersectionnalité n'est pas un attribut à brandir comme un étendard, mais bien un outil pour révéler comment se combinent diverses oppressions au-delà du cumul et du croisement. C'est ainsi que débute ce papier d'Hélène Hernandez. Voilà, moi, je vous propose... Moi, je pense qu'on a le temps d'une toute petite pause musicale. Allez, c'est parti.
Moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. Je sais, j'ai mille raisons pour me sentir bien. Pourquoi j'ai ce goût amer qui me vient de loin? Je la vois leur vie en rose, mais j'y crois plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. À me demander chaque jour ce que je ferai demain. À me demander encore si c'est le bon chemin. Et où est-ce qu'elle va, cette route ne mène à rien. Mes doutes et mon destin, j'en peux plus. De mes doutes et mon destin, j'en peux plus. Au fond, je crois que je suis comme toi, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. C'est de la mort que l'on se rapproche. On se dit qu'on est plus fort qu'on oublie. Jusqu'au moment où nous passerons le porche. Derrière ce qui paraît, y a ces lumières qui ne réchauffent plus les cœurs des gens sur terre. J'espère que là-haut, au moins, il fera bon vivre. Parce qu'ici, nous sommes ivres et j'en peux plus. Nous sommes tous ivres et j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. De moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Je me sens comme une boussole sans le moindre pôle. Et on me demande encore ce qui me dérange. Je suis comme Pierre-Paul ou Jacques et j'en peux plus. Regarde-nous, souvent nous sommes les mêmes.
Toutes mes excuses à Ridan que nous venons d'écouter, mais pas tout à fait entier. C'était J'en peux plus. Le tour du monde libertaire.
Ça continue, voilà. Ça continue sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous refermons bientôt ce Monde Libertaire numéro 1855 du mois de novembre 2023 avec les pages culture qui s'ouvrent avec un focus sur le cinéaste africain Med Ondo et son œuvre, un article signé Daniel Pinos. Docker, cuisinier, acteur, metteur en scène, producteur, grand nom du doublage, il fut la voix française d'Eddie Murphy et Morgan Freeman. Med Ondo, né en 1936, décédé en 2019, a aussi laissé une œuvre de réalisateur influencé par Franz Fanon, Aimé Césaire et Bertolt Brecht. Daniel cosigne avec Mireille Mercier également un papier intitulé Année en parenthèse 2020-2022. La réalisatrice Eyer Scharf, confinée à Montréal, demande à 50 amis du Canada et d'ailleurs, musiciens, peintres et écrivains, de lui envoyer des images, des sons de leur production. Envoyez ce que vous voudrez dans la langue et dans la forme de votre choix, sonore, visuel, muette, répondez comme vous voudrez. Et ça sort, c'est un film de Eyer Scharf qui est sorti le 25 octobre dernier. Et puis les notes de lecture, le goût de lire sans sectarisme. Ramon Pinault a ouvert pour nous la revue Noir et Rouge, le numéro 14 de ce trimestriel de critique bibliographique du mouvement libertaire. Donc il nous recommande fortement ce numéro à connotation hispanique et un dossier regroupant témoignages et ou commentaires sur la tenue cet été des rencontres internationales anti-autoritaires de Saint-Imier. Je vous laisse découvrir l'article dans les colonnes du Monde Libertaire. Jean-Marc Reynaud, de son côté, nous invite à découvrir le poète Samuel Deller et son ouvrage « Fragments d'infini », un livre qui a obtenu le Grand Prix Oléron 2023 du Printemps des Poètes. Thierry Guilabert a lu pour nous le tome 2 de la bande dessinée de Jean-Pierre Ducret consacré à Makhno et la révolution russe. Et puis Hello des libraires terres, groupe La Sociale, nous recommande la lecture de Les anarchistes face à la Première Guerre mondiale, Kropotkine et la Grande Guerre de René Berthier. Très rapidement, parce que je suis super en retard, La Dame du silence, recommandée par André Bernard de Bordeaux du Cercle Jean Barruet. La Dame du silence, très, très lettrée, d'origine plutôt aisée, la néo-malthusienne Marie Huot fut une libertaire originale par sa volonté de vouloir faire converger toutes les luttes, associant la souffrance et l'exploitation des prolétaires à celle des femmes, des enfants et des animaux. Sylvain Oignon, Marie Huot aux ateliers de création libertaire. Et Pierre Sommermeyer nous propose « Comprendre la question juive » de Christian Eschène, « Judéicité, laïcité et libre pensée ». Une dernière recommandation, « Le marché de la tragédie », Martine Senevitz, « Hey Market ». Récit des origines du 1er mai. C'est Hugues qui nous recommande la lecture de cet ouvrage. L'ouvrage présenté ci-dessus, nous dit-il, a tellement plu que nous vous en proposons une autre recension en plus de celle du mois dernier. Donc on en avait déjà parlé dans les colonnes du Monde Libertaire. Comme toujours, la dernière page du Monde Libertaire vous donne les contacts des groupes de la Fédération anarchiste. Et la quatrième de couve vous permettra de découvrir les nouveautés de la librairie Publico pour ce mois d'octobre. Eh bien, moi, je serais assez pour lancer le générique de fin si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ma chère Monique. Et nous voici à la fin de ce tour du monde libertaire. On se retrouve lundi 25 novembre, vous rendez compte? Le jour de la naissance du petit Jésus. Qu'est-ce que tu dis?
25 novembre?
25 décembre. 25 décembre.
Ouais, j'étais pas
vous savez, moi, quand on me parle du petit Jésus, je suis perdu, je ne sais plus où j'habite, je ne connais plus le calendrier. Alors, le 25 décembre, lundi 25 décembre, 18h, sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la glorieuse Fédération anarchiste. Merci à Monique et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Merci Serge, merci Nicolas d'être intervenu dans la lutte antinucléaire et dans cette émission. Et n'oubliez pas, ni Dieu, ni maître, ni publicité.
C'est pas une espèce protégée, y a pas de danger qu'elle disparaisse. Ça se reproduit l'hiver, l'été, ça fait pas trop dans la finesse.
Ça a un cœur qui bat tout rouge, pourtant ça tire sur tout ce qui bouge. De tous les côtés des frontières, ça joue aux soldats, à la guerre.
Ça s'éclate à la guérilla, ça FSB, ça CIA. Du plus profond des millénaires, de l'armée de sang et rivière. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. Espèce de... Ça construit des murs à Berlin, Jérusalem ou Tijuana.
Ça peut pas saquer ses voisins. Pour vivre heureux, vivons chez soi.
Ça génocide, ça vocifère, ça apartheid, ça terrorise.
Pour le pouvoir, pour un bout de terre, faut que ça se bastonne, faut que ça se détruise.
Espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un vertébré un peu timbré, un peu truffion.
Ça genouille, ça prie des dieux, mais faut que ça zigouille dès que ça peut.
Ça inquisitionne, ça croisade, ça colonise et ça djihad. À coup de missile, à coup de roquette, ça va faire péter la planète. L'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un petit bipède, un gros cerveau, un vrai champion. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un homo sapiens imbécile, un beau couillon. Un singe qui a mal tourné, qui est devenu cro-magnon. C'est le nom d'une espèce guerrière à l'unisson. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con.
Minou, Minou. Où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold.
Édito du lundi 30 octobre 2023 du Monde Merveilleux, d'après la Covid? Ben non, la virusation de la société mondiale n'était qu'un prétexte à nous familiariser avec les nouvelles technologies, les dématérialisations, le télétravail et l'analphabétisation par les réseaux sociaux, hors militantisme libertaire. Donc ce soir, nous allons combiner les élections professionnelles des entreprises où sont implantées des sections CNT et le vote électronique qui envahit la représentation du personnel dans les boîtes. En quelque sorte, la confrontation du vieux monde syndical enraciné dans sa tradition militante avec l'apparente modernité du téléphone mobile qui rend des